pour dire au peuple ce que Dieu a sur son cœur. Et c'est vraiment ça le rôle des prophètes. Et Dieu est en train de s'adresser à un peuple dans un contexte particulier. Maintenant, je recule plus loin que ça dans le temps. Il faut comprendre qui est Israël. Avant que le peuple d'Israël soit véritablement une nation, un peuple, Dieu avait déposé ses regards sur un homme, Abraham, lui avait donné une promesse. Il lui avait promis que de sa descendance, il créerait une nation. Il créerait un peuple qui serait son peuple. Et donc, un peu plus loin dans l'histoire, on retrouve le peuple d'Israël, qui est maintenant nombreux, mais qui en même temps était esclave en Égypte, sont libérés de leur esclavage, conduits au désert, conduits au mont Sinaï. Et là, sur le mont Sinaï, au pied du mont Sinaï, Dieu va venir rencontrer le peuple et il va entrer dans une alliance avec ce peuple-là. Dieu va contracter une alliance avec ce peuple-là. Le peuple va devenir son peuple. Ils vont devenir son peuple et Dieu va leur communiquer, puisque vous allez être mon peuple, voici comment vous êtes appelés à vivre maintenant. Comment vous êtes appelés à vous comporter. C'est très important de saisir cela, parce qu'à partir de ce moment-là, la manière que les Juifs, les Israélites vont se comporter les uns envers les autres doit refléter cette alliance-là entre Dieu et le peuple. Donc leur manière de faire des affaires ensemble va être un reflet de cette alliance de paix que Dieu a contractée avec Israël. Leur manière d'accueillir l'étranger qui vient vivre au milieu d'eux va aussi refléter cette alliance-là entre Dieu et Israël. Vous étiez étranger, je vous ai accueilli. Vous allez accueillir l'étranger qui vient vivre au milieu de vous. Leur manière de se comporter avec les pauvres qu'il y avait au milieu d'eux. Vous étiez pauvres et je vous ai pris, je vous ai adopté. Vous allez prendre soin des pauvres. Leur manière de vivre l'amour entre un homme et une femme, de tisser des liens, de se mettre ensemble, de créer un foyer, de se marier. La manière de se comporter dans le mariage doit refléter aussi cette alliance-là, ce mariage-là que Dieu a fait avec Israël. C'est important d'avoir ce contexte-là. Lorsqu'on retrouve Israël dans le livre de Malachie, on est quelques siècles plus tard. Et le peuple d'Israël n'a pas toujours été fidèle à son alliance. Si vous êtes avec nous depuis le début de la série, vous avez déjà eu un peu cette intro-là. Mais je vous remets en contexte, vous allez voir pourquoi. Le peuple d'Israël n'a pas toujours été fidèle à son alliance. Il a souvent été même infidèle. Dans cette alliance-là, Dieu avait dit, « Voici ce qui va se passer si vous n'êtes pas fidèle. Je ne vous accorderai plus ma protection. Je vais vous livrer à vous-même. » Vous ne voulez rien savoir de l'alliance qu'on a traitée ensemble, je vous livrerai à vous-même pour un temps. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Progressivement, les tribus, dépendamment des territoires, ont été déportées puisqu'ils ont été envahis. C'était la pratique de l'époque. Lorsqu'un envahisseur prenait le contrôle d'un territoire, il déportait une partie de la population pour pouvoir vraiment contrôler ce territoire-là, contrôler cette population-là. Souvent, on déportait les meilleurs éléments, ceux qui avaient le plus de potentiel. On les amenait dans notre pays à nous, puis on les mettait à notre service. Et donc, ce qui est resté en Israël, c'est les éléments les plus faibles. Mais Dieu avait donné une promesse aussi. Dieu avait promis que 70 ans passeraient, et après 70 ans, la déportation se terminerait. Il y aurait un retour de l'exil. Lorsqu'on arrive dans le livre de Malachie, ça fait déjà environ 80 ans que le peuple d'Israël a commencé à effectuer ce retour-là en terre d'Israël. Ils sont partis peut-être 2 millions, quelques 50 000 sont revenus. C'est vraiment pas nombreux. Lorsqu'on a commencé le livre de Malachie, on a dit que c'était un contexte économique super difficile. Ils doivent reconstruire Jérusalem, reconstruire les murs, reconstruire le temple qui a été détruit. Il y a des gens qui ont occupé le territoire, d'autres peuples qui veulent posséder leur place. Même si le retour s'est fait avec la bénédiction, disons, de l'Empire qui est en train de régir tout ce secteur-là du Moyen-Orient, quand même, lorsqu'ils arrivent, ils font face à des adversaires. Le papier ne suffit pas. Et donc, c'est difficile. C'est difficile économiquement. On n'a plus la gloire d'Israël qu'on avait avant sa chute. Et à ce moment-là, le peuple de Dieu, dans son cœur, commence à douter de l'amour de Dieu. Tu nous as ramenés ici pourquoi? Et là, si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, c'est toujours la chanson avec Israël. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Pourquoi tu nous as ramenés ici? Est-ce que vraiment tu nous aimes? Et le peuple commence à douter de l'amour de Dieu. Et ce qu'on a dit au début du livre de Malachie, c'est que le livre de Malachie, une des leçons qu'il a à nous enseigner, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne, lorsque des gens sont entrés dans une alliance de paix avec Dieu, avec notre Créateur, lorsque des gens ont connu Dieu, ont connu l'amour de Dieu. Puis pour toutes sortes de raisons, bien souvent par notre propre bêtise, bien souvent, en viennent à douter de l'amour de Dieu. Quelles conséquences cela va avoir dans nos vies? Et le livre de Malachie, je crois, est là entre autres pour ça, pour nous enseigner à nous comme chrétiens, quelles sont toutes sortes de conséquences qui peuvent survenir dans nos vies lorsqu'on en vient à douter de l'amour de Dieu. Et on a commencé à voir ça dans Malachie. Maintenant, on arrive dans une portion du livre de Malachie qui va s'adresser sur la question du mariage. Alors, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Bien, évidemment, les gens du peuple de Dieu étaient appelés à se marier avec des gens qui adorent le même Dieu. Si tu te mariais avec quelqu'un qui adorait un autre Dieu, inévitablement, ce mariage-là allait aller ailleurs. Et effectivement, chaque fois que des gens d'Israël l'ont fait, ils se sont mis tôt ou tard, à dire, ben un Dieu de plus, on va en adorer 3-4 en même temps. Alors, clairement, dans les Écritures, Dieu enseigne qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Créateur. Je ne peux pas adorer d'autres dieux que le Créateur. Et c'est ce Dieu-là que les Juifs adoraient. C'est ce Dieu-là que les chrétiens adorent, le seul Créateur. Et donc, Dieu leur disait, non, vous allez vous marier avec des gens qui m'adorent, des gens qui sont dans cette alliance-là, qui vont comprendre comment on fonctionne dans cette alliance-là. Maintenant, je vous l'ai dit, les circonstances économiques étaient difficiles. Et donc, la manière qu'on comprend ce qui se passe ici dans le passage, je termine mon introduction avec ça, d'accord? Il y a comme deux sujets. Vous allez voir, il y a des mariages mixtes. C'est-à-dire qu'il y a des Juifs qui vont vers des non-Juifs pour se marier, des gens qui adorent d'autres dieux. Puis ensuite de ça, il est question de divorce. Et pour autant qu'on peut comprendre ce qui est en train de se passer ici, c'est qu'il y avait des hommes d'Israël qui étaient mariés et qui décidaient de rompre leur mariage, donner une lettre de divorce à leur épouse, dans un intérêt économique, pour aller marier, pour aller faire des mariages mixtes, pour aller marier quelqu'un d'un autre peuple dans un intérêt économique. C'est ça le plus probable de ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Encore une fois, beaucoup d'informations culturelles ce matin. À l'époque, la polygamie était tolérée, d'accord? Jamais dans l'Ancien Testament, Dieu condamne explicitement le concept de polygamie. C'est dur à comprendre un petit peu parce que Dieu, en même temps, élève tellement le mariage, nous montre tellement la beauté du mariage entre un homme et une femme, un amour sincère. Mais en même temps, culturellement, il n'y a jamais une condamnation explicite qui est là. Et donc, on peut se poser la question, lorsqu'on étudie le passage, pourquoi est-ce que ces hommes-là, s'ils voulaient juste gagner un intérêt économique, n'auraient pas décidé tout simplement de marier une deuxième, une troisième, une quatrième femme? Ce que les polygames vont faire, d'accord? J'ai marié une femme d'Israël, je vais ajouter une autre épouse. Maintenant, la coutume était, et encore une fois, si vous lisez l'Ancien Testament, vous le voyez très bien paraître, que l'honneur, la place la plus importante dans un mariage mixte, dans un mariage polygame, je m'excuse, c'était la première épouse. Si je cherche un intérêt économique, il va falloir que mon nouveau mariage soit mon premier mariage. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner une lettre de divorce à celle que j'ai mariée dans ma jeunesse parce que je vais aller en marier une autre. Et là, je vais aller vers quelqu'un qui adore un autre Dieu. Par intérêt économique, parce qu'à quelque part, je doute de la fidélité de Dieu puis j'ai décidé de prendre les choses en main moi-même. Et on va aller apprendre dans ce passage-là des leçons que Dieu veut nous enseigner pour nous aujourd'hui comme chrétiens. On va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, on aborde un texte qui est beau, un texte qui est dur aussi, Seigneur. Lorsque je l'étudiais, j'entendais ton cœur, je voyais ton cœur par rapport à nos mariages, à nos relations humaines, Seigneur. Père, on aborde un passage ce matin qui, des fois, touche nos vies très intimement, Seigneur. Nos mariages à nous, nos succès, entre guillemets, nos échecs, Seigneur. Père, tu nous as fait la grâce de te révéler à nous et de nous inviter à entrer en relation avec toi. Et aujourd'hui, tu nous invites, Seigneur, à ce que toutes nos relations soient un reflet de cet amour que tu as eu pour nous. Viens nous enseigner ce matin. dispose nos cœurs à recevoir ta parole ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu. Julie va nous lire ça. Tournez avec nous dans Malachie 2, s'il vous plaît.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre Malachie, au chapitre 2, versets 10 à 16, dans Nouvelle édition de Genève. Malachie, au chapitre 2, versets 10 à 16. « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond. Il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles.
Merci, Julie. Tout un passage, n'est-ce pas? Pour bien comprendre ce texte-là, les deux premiers versets sont super importants. Toutes nos relations, une fois qu'on connaît Dieu, toutes nos relations prennent un sens nouveau. Avant de connaître Dieu, on peut vouloir faire du bien aux gens avec qui on est en relation, puis on cherche à recevoir quelque chose dans cette relation-là, n'est-ce pas? Les amitiés, les collègues de travail, en amour. Je veux donner, si je suis un peu généreux, puis je veux recevoir. Lorsque je connais Dieu, j'ai une nouvelle relation qui apparaît, qui est vraiment une relation verticale avec Dieu. Et je réalise, parce que les Écritures m'enseignent ça, qu'ensuite de ça, toutes mes relations horizontales sont là pour refléter la qualité de ma relation avec Dieu. Quand il y a quelqu'un qui est dur avec moi au travail, je suis confronté maintenant que j'ai connu l'amour de Dieu, je suis confronté au devoir d'aimer quand même, de trouver comment aimer cette personne-là qui est dure au travail. Je ne suis pas simplement moi en relation avec elle dans un rapport de gain, de bénéfice qu'on va échanger ensemble. Je suis là pour refléter ma relation avec Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, toutes nos relations prennent une nouvelle dimension et elles servent à refléter l'amour que j'ai connu en Dieu. C'est important de saisir ça pour comprendre ce qui se passe ici dans le passage et pour comprendre ce que nous, on doit apprendre de ça. Le mariage chrétien reflète particulièrement notre alliance avec Dieu. Parce que dans le mariage, qu'est-ce qu'on fait? On traite une alliance avec une personne. J'ai contracté une alliance 23 ans avec mon épouse. Et cette alliance-là particulièrement est appelée à refléter mon alliance avec Dieu. Maintenant, je dis particulièrement parce que des fois, on va dire par excellence, le mariage est la relation terrestre qui reflète le plus notre relation avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas tout à fait vrai. Nos relations dans l'Église occupe encore beaucoup plus de place dans le Nouveau Testament que le mariage. Mais le mariage est un des endroits, une des relations particulières où notre relation l'un envers l'autre est là pour refléter l'amour de Dieu pour nous. Ce matin, on va voir ensemble que toutes nos relations sont appelées à refléter l'alliance de paix que Dieu a faite avec nous et la relation du mariage chrétien en particulier. Regardez avec moi le passage, les deux premiers versets. Je prends le temps de m'attarder sur ces deux versets-là parce que tout le reste ne fait pas de sens autrement. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Si je m'arrête ici, je peux avoir l'impression qu'on est en train de parler de tous les êtres humains. D'accord? Est-ce que tous les êtres humains n'ont pas le même Créateur? Oui, définitivement. Je crois en un seul Dieu qui a créé tous les hommes sur la terre. Est-ce que c'est de ça dont il est question ici? Non. On parle de la création du peuple de Dieu. Regardez le deuxième, la suite du verset en fait. Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Et là ici, Dieu est en train de faire référence à travers son serviteur Malachie à cette alliance qui a été contractée sur le mont Sinaï. Au mont Sinaï, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, a contracté une alliance avec Dieu. Et en contractant cette alliance-là avec Dieu, ils ont contracté une alliance les uns envers les autres. Ils ont dit, nous allons être les uns pour les autres, le peuple de Dieu aussi, dans nos rapports les uns avec les autres. Je vais reconnaître en toi quelqu'un qui veut marcher avec le même Dieu que j'adore. Je vais reconnaître en toi celui qui reconnaît le Créateur des cieux et de la terre. Je vais reconnaître en toi quelqu'un dont je dois prendre soin comme quelqu'un qui veut marcher avec Dieu. Et donc, si dans mon rapport avec quelqu'un d'autre qui est dans cette alliance-là, je manque envers mon Père. Je manque envers notre Père. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu va se présenter comme le Père d'Israël. Ils ont un Père humain, si on peut dire, Abraham. Abraham, c'est notre Père. Ouais, par le sang. Pour ceux qui vont croire vraiment, leur Père, c'est Dieu, qui est devenu Père de cette nation-là. D'une manière unique, d'une manière personnelle, d'une manière réelle, le Créateur de tous les êtres humains sur la terre est entré dans une relation de paternité avec un peuple qui a voulu contracter une alliance avec lui. C'est important de saisir cela parce que cette idée-là continue dans tout le Nouveau Testament. Lorsque tu viens à la connaissance de Jésus-Christ, quand tu découvres le christianisme, tu réalises que Jésus n'est pas simplement un prophète, Jésus n'était pas simplement un homme sage, Jésus était le Fils de Dieu qui avait pour Père Dieu le Père. Hein? Les chrétiens croient au Dieu trinitaire, le Père, le Fils, l'Esprit. Lorsque tu découvres l'Évangile, tu découvres ce que Jésus a fait, t'entres dans cette relation-là et celui qu'on pourrait appeler le Père de tous les hommes sur la terre, d'une manière spéciale et unique, deviens ton Père, parce que tu t'appropries l'œuvre que Jésus a faite à la croix en mourant sur la croix pour tes péchés. Tu entres dans une nouvelle alliance. Alors que Jésus prenait le repas, le dernier repas de la Pâque avec ses disciples, il a présenté la coupe en faisant allusion à sa mort sur la croix, en disant « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance, en mon sang. Et ceux qui vont croire en moi vont entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu le Père. » Et donc, pour nous, chrétiens, d'une manière unique, différente de ce que tous les êtres humains pourraient croire en disant, « OK, il y a un seul Dieu, c'est notre Père à tous. » Des fois, je jase avec des gens et je dis, « Ah oui, mon frère. » C'est vrai, des fois, je jase avec des gens, ils ne sont pas chrétiens puis ils vont me dire ça. Parce qu'à quelque part, on est tous frères, on est tous hommes, on est tous êtres humains. On a tous une origine commune, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de ça dont il est question ici. On parle de la paternité de Dieu envers celui qui est entré dans cette alliance-là avec Dieu. Et c'est de ça dont il est question ici. Et donc, Malachie dit, « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés, qui a créé ce peuple-là? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? » Je vous lis un passage dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 8. Un petit peu long, mais soyez attentifs parce que ça nous aide à comprendre aussi cette idée-là pour les chrétiens. Donc, si vous n'êtes pas familier avec tous ces concepts-là, je pense que ce passage-là peut vous aider à le saisir. Ça parle d'un autre sujet, mais vous allez voir, on s'en va vers cette idée-là d'un Dieu unique. « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Alors, à cette époque-là, les chrétiens côtoyaient des gens qui faisaient des sacrifices à toutes sortes de divinités, qui adoraient des statues. Et puis, Paul est simplement en train de dire « c'est juste des statues ». Il y a un seul Dieu réel. Il y a un seul créateur réel. Mais en même temps, il dit, « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, parce qu'effectivement, il y a une dimension spirituelle, puis c'est possible de vouer un culte à d'autres êtres spirituels qu'au seul vrai créateur. Il y a des démons, il y a toutes sortes de choses, c'est ce que les Écritures nous disent. Il y a une vraie dimension spirituelle qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Et derrière cette statue-là de bois qui n'est rien d'autre que du bois, je suis peut-être en réalité en relation avec un esprit quelconque qui n'est pas le créateur de tous les hommes, qui n'est pas le seul vrai créateur. » Il dit néanmoins pour nous chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est de cette paternité-là dont il est question. Et donc, les chrétiens ont un rapport avec Dieu, le Père, qui est différent de ce que les hommes pourraient avoir en disant « Oui, OK, il y a un seul Créateur. » Pour moi, il est mon Père parce que mon frère, c'est Jésus-Christ. Et quand j'ai cru en Jésus-Christ, je suis entré dans une alliance avec mon Père céleste. Je suis entré dans la famille de Dieu. Et ma manière de me comporter avec mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas familier avec le jargon, vous entendez les chrétiens, frères et sœurs, c'est tellement weird. Arrête, c'est pas ta sœur. Oui, spirituellement, c'est vraiment ma sœur parce que d'une manière souvent même plus puissante, à quelque part, dans l'expérience, dans cette réalité-là, même dans une perspective éternelle, c'est la sœur de Jésus parce qu'elle a cru en Jésus. C'est ma sœur. Et on partage le même Père. Alors, qu'est-ce que Malachie dit? Il dit, « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? » Nos relations les uns avec les autres ont un impact direct sur notre relation avec Dieu. Notre manière de nous comporter les uns avec les autres a un impact direct sur notre relation avec Dieu. Parle de notre relation avec Dieu parce qu'on a un seul Père. Et donc, ce qu'on voit à travers l'Ancien Testament et à travers toute la Bible, c'est que lorsque des gens contractent une alliance avec Dieu, ils entrent dans une famille, on devient une famille. D'une certaine manière, je suis frère de tous les hommes sur la terre, mais d'une manière unique, je suis frère de tous ceux qui sont frères et sœurs de Jésus-Christ. Et je suis entré dans cette famille-là. Des mariages dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que Dieu condamne les mariages mixtes, c'est ça qui condamne ici au début du passage. Avec des paroles très, très sévères, Judas s'est montré au verset 11, « Infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui était consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. » Dieu dit, « Tu vas être un peuple saint qui va m'être consacré. » Ta vie, ton temps, tes pensées, ton cœur, tes passions vont servir à m'aimer et à aimer les gens autour de moi comme je t'aime. Et lorsque ces hommes-là décidaient d'aller s'unir à des femmes qui adoraient d'autres dieux, parce qu'à la limite, ça aurait pu être une femme qui vient d'ailleurs puis qui se convertit, qui se met à adorer Dieu, qui devient juive, ça existait. Ça aurait pu être le cas. On a même des belles illustrations bibliques de ça, des histoires glorieuses. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. On parle, à ce moment-là, d'une personne qui adore un autre Dieu. Dieu dit, tu ne peux pas faire ça. La personne peut être super sympathique, super belle, super fine, super gentille. Waouh! Mais au plus profond d'elle-même, son cœur appartient à quelqu'un d'autre. Elle sert un autre Dieu. Ah, de manière pratique, ça implique plein de choses, parce que chaque fois que ça se produit, effectivement, dans le temps, que ce soit un an, deux ans, trois ans, dix ans plus tard, ils vont abandonner leur Dieu. Ils vont se mettre à avoir des pratiques que ces dieux-là, ou ces soi-disant dieux-là, acceptent et tolèrent. Mais avant même les conséquences, Dieu ne veut pas un cœur partagé. Dieu veut un cœur entier. Et Dieu est le seul créateur. Et donc, si je vais puis je me marie avec quelqu'un qui adore un autre Dieu, comment on va construire ce foyer-là en plaçant Dieu au centre de notre foyer? Et c'est ça la question qui est ici. C'est ça la question qui est ici. Comment est-ce qu'on va le faire? Aujourd'hui, ça peut sembler moins évident parce qu'on va dire, ouais, mais c'est parce que là, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont des petites idoles. Quoique, hein, de plus en plus multiculturel, ça peut arriver. Oui, tu peux avoir maintenant des idoles dans ta maison. Tu adores d'autres dieux, tu as tes petites divinités, tout ça. Mais bon, la majorité des gens n'adorent pas des statues ici au Québec. C'est comme plus vraiment là, cette affaire-là. Fait que, écoute, moi, je veux dire, je suis intéressé par cette personne-là, je suis attiré par elle. Elle n'adore pas des statues, puis toutes sortes de choses comme ça. Elle n'a pas d'autres dieux dans sa vie. Ça n'existe pas pour avoir de Dieu dans ta vie. Si tu n'en as pas, c'est probablement que c'est toi qui es ton Dieu. C'est probablement ça. Si tu n'es pas capable d'identifier un Dieu que tu sers, que tu adores, si tu n'as pas reconnu peut-être que l'argent est ton Dieu, au strict minimum, c'est toi qui es ton propre Dieu. Dieu dit non, c'est moi le Créateur. Tu ne t'es pas créé, tu ne t'es pas mis au monde. Et donc, si je vais vers quelqu'un qui peut-être n'adore pas de Dieu d'autre que lui-même et ne sert pas d'autre personne que moi, je poursuis mon destin, ma vie, je construis ma vie, je prends mes décisions, j'oriente ma vie, je suis intelligent après tout, fait que j'oriente ma vie. C'est ça que je dis, t'es ton Dieu. T'es ton Dieu. Moi, personnellement, j'oriente pas ma vie. J'oriente ma vie à la lumière de la parole de Dieu parce que j'ai reconnu qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que moi. Et qui peut m'expliquer comment fonctionne la vie. Je sers ce Dieu-là. Je sers le Dieu trinitaire que les chrétiens servent. Je sers le Seigneur Jésus, qui est mon Seigneur, qui est mon frère, mais qui est mon Seigneur, qui est mon roi. Et ça demeure vrai dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 7:39, une femme est liée aussi longtemps à son mari, aussi longtemps que son mari est vivant, vice-versa. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement que ce soit dans le Seigneur. À qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Ainsi, un chrétien est appelé à se marier dans le Seigneur. C'est l'appel que Dieu place sur nos vies. Et parfois, il arrive que des chrétiens vont être malheureux, vont être découragés, vont être désespérés de trouver l'amour, de pouvoir se marier, ne trouvent pas dans l'Église, commencent à chercher ailleurs, puis ils vont aller voir ailleurs. Alors, ce frère-là, cette sœur-là, n'est pas fidèle à son alliance avec Dieu. Je sais que ça semble dur, ce que je vous dis, si vous êtes dans cette situation-là, où vous êtes désespéré, puis vous dites, « Oui, mais Yannick, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rester seul. » Il arrive que des chrétiens qui se sont éloignés de Dieu pendant plusieurs années, ou parce qu'ils n'ont pas été enseignés sur ces choses-là. Ils ont connu l'Évangile, mais ils n'ont pas été enseignés sur ces choses-là. Ils arrivent. Il arrive que ces gens-là vont aller se marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Dieu les appelle à persévérer dans leur mariage. Ça ne sera pas toujours simple, parce qu'il y a 1 million de décisions qui vont être à prendre, puis Dieu ne sera pas nécessairement au centre de l'union. Mais clairement, ils sont appelés à persévérer. Clairement, dans le Nouveau Testament, Paul va dire dans 1 Corinthiens 7, si le conjoint non chrétien, parce que des situations qui arrivent aussi, c'est tu as deux personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui sont mariées. Il y a quelqu'un qui découvre l'Évangile. Waouh, devient chrétien. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée toutes sortes de tensions quand ça se passe dans une union. Honnêtement, ça crée toutes sortes d'histoires, de discussions. C'est comme, on dirait que ton cœur n'est plus tout en même place. Tu as raison! Mon cœur est avec Dieu, tu sais, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Paul dit, si le conjoint non chrétien désire, accepte de rester avec toi, persévère dans ton mariage. Prie pour lui, aime-le. Donc ça arrive, vous comprenez? Mais ce que Dieu désire, c'est que nous nous marions dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu a une grande vision du mariage. Comment est-ce que Dieu voit le mariage? Il y a un mot qui m'a bouleversé la première fois que j'ai lu le passage pendant que je me préparais pour l'enseignement. Dieu dit au verset 14, « Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. » Je ne sais pas qui ici a déjà été témoin dans un mariage. Vous signez comme témoin du mariage. Si un ami t'approche, des fois dans les familles, les parents ne sont pas là ou ils ne sont pas présents, puis le jour où peut-être je serai témoin au mariage de mes enfants, C'est tout un honneur incroyable. Hein? Dieu dit dans ce passage-là qu'il est témoin de l'alliance entre toi et la femme de ta jeunesse. Ça m'a touché. Parce que Dieu me dit à quel point il a à cœur nos mariages. Il est témoin. Il est là. Il a les regards sur cette relation-là de manière particulière. Dieu aime le mariage. Dans Genèse 2, 23-24, alors que Dieu crée l'homme, Dieu crée la femme, puis il présente à Adam celle qui lui ressemble. Voici ce que Adam dit. Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'année dernière, en 2015, on a traversé ensemble le Cantique des Cantiques. C'est troublant, la première fois que tu trouves ça dans la Bible, c'est comme, ouh, toutes sortes d'allusions assez intimes, merci. C'est une ode à l'amour absolument incroyable. Tu ne penserais pas trouver ça dans les Écritures. Puis Dieu, dans sa sagesse infinie, voulait nous dire combien l'amour, c'est quelque chose de beau et combien l'amour entre un homme et une femme peut vraiment refléter l'amour que Dieu a pour nous. Dans le Cantique des Cantiques, tu as, wow, une ode incroyable au mariage. Mais à l'amour dans ce mariage-là, Dieu est témoin. Dieu est témoin de l'alliance que je prends avec la femme de ma jeunesse. Dieu est témoin de cette alliance-là. Dieu aime le mariage et il choisit d'être témoin. Des fois, j'oublie ça dans mon mariage. J'ai déjà partagé avec l'Église, puis je le dis lorsqu'on on donne des cours de préparation mariage ou lorsqu'on en donnait maintenant, il y a plein de gens qui nous aident. Mais pour moi, c'est important au début de notre mariage d'être conscient que Dieu est témoin de notre mariage. Tout le temps. Même dans la chambre à coucher. C'est drôle, hein? Je rendais grâce dans l'intimité comme je rendais grâce lorsque Dieu donnait un travail. Comme je rendais grâce lorsque Dieu pourvoyait à la nourriture. Parce que toutes les grâces, toutes les bontés de Dieu, je les voyais comme venant de mon Père céleste. C'est clair pour moi, Dieu est témoin de mon union avec la femme de ma jeunesse. Et des fois, j'oublie ça, puis ça me bouleversait lorsque je revenais là, je disais, Seigneur, tu es témoin de ce qui se passe dans mon cœur, dans mon mariage. Tu es témoin entre moi et la femme de ma jeunesse. Tu es là parce que tu aimes le mariage, parce que tu aimes cette union-là. Dieu aime le mariage. Alors, qu'est-ce que Dieu pense du divorce? Dans le passage ici, le passage est super dur. Au verset 16, « Car je hais la répudiation, je jaillis le divorce. » Maintenant, parfois Dieu permet le divorce, on va le survoler très rapidement, parfois Dieu permet le divorce, mais fondamentalement, et je sais qu'il y a toutes sortes de situations, je suis pasteur, d'accord? Souvent, on est présent lorsqu'il y a des situations malheureuses qui se passent. Mais fondamentalement, Dieu haït le divorce parce que, d'une manière ou d'une autre, le divorce est toujours le fruit du péché. D'une manière ou d'une autre, même si je suis déserté, même si moi j'aurais voulu continuer puis je suis abandonné, le péché était là. Puis nos mariages sont appelés à refléter notre alliance avec Dieu. Pas comme ça que Dieu se comporte envers nous. Et donc, Dieu est ça. Il y a des circonstances où Dieu permet le divorce. Je vais les couvrir rapidement, d'accord? Même si je ne suis pas dans le passage ici, je ne veux pas induire quelque chose de faux, puis on n'aborde pas souvent ce sujet-là. Alors, je vais juste prendre le temps de le survoler rapidement. On lit dans Deutéronome, Moïse, par qui Dieu a donné les 10 commandements, enseigne dans Deutéronome 24, 1 et 2. Lorsqu'un homme a repris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre. Les gars étaient durs avec leur épouse, des fois insatisfaits, les renvoyaient chez leurs parents, chez leur mère, chez leur père, sans leur donner une lettre de divorce. Ces femmes-là n'étaient pas libres. Ces femmes-là étaient dans une situation de vulnérabilité. Puis Moïse a légiféré en disant, si vraiment c'est ça qui se passe, c'est pas clair exactement de quoi il parle, d'accord? Parce que tu es dans la loi, puis sous la loi en Israël, l'infidélité était condamnée par la mort, la lapidation. Donc de quoi il parle ici, c'est pas tout à fait clair. Mais Moïse intervient pour protéger les femmes en disant, si c'est ça que tu fais, mon ami, tu vas lui donner une lettre de divorce. Elle va s'en aller, puis elle va pouvoir devenir la femme d'un autre. Je n'ai pas mis tout le passage, mais en plus de ça, si elle devient la femme d'un autre, quand bien même elle deviendrait veuve de ce deuxième mariage-là, tu ne pourras jamais la remarier. Parce que tu lui as donné une lettre de divorce et elle est devenue la femme d'un autre. Jésus parle du divorce. Dans Matthieu 5, versets 31-32, à une époque où encore une fois, les docteurs de la Bible donnaient toutes sortes de directives, donnaient toutes sortes de libertés, puis ils disaient, c'est correct, tu n'es pas content, fais pas bien la vaisselle, donne-lui une lettre de divorce. Je ne te dis pas un lave-vaisselle, donne-lui une lettre de divorce. Jésus dit, non, vous n'avez pas compris. Le mariage est beaucoup plus beau et beaucoup plus grand que ça. Dans Matthieu 5, verset 31-32, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, et il n'est pas en train de s'opposer, il est en train de clarifier. Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, il y a seulement, Jésus nous dit, dans le cas où il y a infidélité, qui va accepter qu'il y ait un divorce qui soit contracté à ce moment-là. Moïse dit, tu donnes une lettre. Jésus dit, dans le cas d'infidélité, j'y vais super vite, 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul donne un autre contexte encore. Il est en train de s'adapter aux situations qui surviennent et il nous donne des instructions. 1 Corinthiens 7, 10 à 13. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier et qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. Et il poursuit en disant, si toutefois elle est abandonnée, bien là, à ce moment-là, elle va être libre. D'accord? Mais elle n'est pas libre si le conjoint accepte, s'il consent à rester. Et donc, Dieu permet dans certaines circonstances très précises le divorce. Il le permet. J'insiste sur ça. Ce n'est pas il le tolère, c'est il le permet. D'accord? Et lorsqu'il le permet, il le permet. Dans certaines circonstances très précises. Mais fondamentalement, nos divorces sont toujours le résultat du péché. Et donc, fondamentalement, Dieu ne se réjouit jamais dans ça. Maintenant, rappelez-vous le verset 10. Rappelez-vous le verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns envers les autres en profanant l'alliance de nos pères? Notre attitude les uns envers les autres parle de notre alliance envers Dieu. Et donc, ce que Dieu dit, c'est que ma manière de voir mon épouse, de voir mon époux, d'aimer la femme de ma jeunesse passionnément, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, est un reflet de mon alliance avec Dieu, de mon amour avec Dieu. Comme j'ai dit au début de l'exposé, avant de devenir chrétien, on voit nos relations avec les gens comme quelque chose où on peut faire du bien à quelqu'un, puis quelqu'un peut nous faire du bien. C'est une espèce de transaction, de relation très horizontale. Lorsqu'on en vient à connaître Dieu, on réalise qu'on a un Père céleste, qu'on a un Seigneur, et on réalise que nos relations horizontales sont appelées à être un reflet de notre relation verticale avec Dieu. Ça change énormément de choses. Ça change la motivation. Nos contemporains cherchent le bonheur dans l'amour. Un de mes enfants, à un moment donné, m'a dit, c'est tellement plate la musique à la radio, ça parle tout le temps d'amour entre un gars et une fille, puis c'est toujours l'amour tout le temps. C'est vrai. C'est comme le sujet. C'est parce que nos contemporains cherchent le bonheur dans l'amour. Ils cherchent l'âme qui va enfin les combler, puis ils vont être heureux dans cette relation amoureuse-là, puis ils vont être comblés à travers ça. Puis là, ils réalisent que cette relation-là apporte pas vraiment le bonheur. J'ai probablement pas trouvé la bonne. Je vais aller en essayer une autre. J'en essaie une autre qui va me donner le bonheur. Puis une autre, puis une autre. Quand le bonheur est plus là, tu te cherches ailleurs. Lorsque tu deviens chrétien, tu réalises que le bonheur se trouve dans une seule relation, dans la relation avec Dieu. Écoutez bien ceci, là. Les chrétiens ne se marient pas pour trouver le bonheur. Moi, je vous dis qu'au moins la moitié d'entre vous, vous êtes mariés pour trouver le bonheur. Au moins la moitié, si ce n'est pas 75%. Les chrétiens ne se marient pas pour trouver le bonheur. Les chrétiens se marient parce qu'ils ont trouvé le bonheur en Dieu, puis ils veulent le refléter en aimant quelqu'un d'autre. Does it make sense? Est-ce que ça se tient ce que je dis? Oui. Les chrétiens ne se marient pas pour trouver le bonheur. Et chaque fois qu'un chrétien est là dans son mariage puis il dit « ça, c'est la relation qui va m'apporter le bonheur », man, you're in for trouble. Ça ne marchera pas ton affaire. Le bonheur, tu l'as trouvé avec Dieu, puis dans la mesure où tu es heureux avec Dieu, tu vas apporter dans cette relation-là ce que tu es supposé apporter. Mais à un certain moment donné, on marche, on avance dans la vie chrétienne, puis on doute à quelque part de l'amour de Dieu, puis on se dit, ce que j'ai pas trouvé en lui, je vais peut-être le trouver dans des relations sur la terre, puis je vais peut-être décider de me marier, puis là, je me marie, puis c'est elle qui va me rendre heureux. Je le dis pas, tu sais, c'est comme... Non, je suis là pour me donner, je vais t'aimer toujours, je vais prendre soin de toi dans la santé, dans la maladie, je vais me donner pour toi. Mais dans le fond, je vais aller trouver le bonheur que je n'ai pas trouvé en Dieu. Marie-toi pas si c'est là que t'es. T'es pas prêt à te marier. Trouve le bonheur en Dieu. Parce que chaque fois que tu vas amener ça comme ça dans ton mariage, tu vas apporter le malheur dans ton mariage. C'est vrai que je suis appelé à faire la joie de la femme de ma jeunesse. Mais la femme de ma jeunesse, ce n'est pas la source de mon bonheur. C'est Dieu en qui je trouve le bonheur. Alors, pourquoi est-ce qu'on entend toujours des chansons sur l'amour, l'amour, l'amour? Les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent comme la deuxième meilleure option. Si je ne connais pas Dieu, je ne connais pas la source du bonheur, je vais me tourner sur ce qui, dans toute la création, ressemble le plus à Dieu, ceux qui ont été créés à son image. Fais-tu du sens? Et dans cette relation-là, ils essaient de trouver ce que tu peux juste trouver en Dieu. Mais nous, comme chrétiens, on a connu que le bonheur se trouve en Dieu. Et qu'une fois qu'on a trouvé ça, toutes nos relations servent à aimer comme Dieu nous a aimés. Alors Jésus va dire, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils sauront que vous m'avez connu, que vous êtes mes disciples. C'est dans votre manière d'interagir ensemble qu'ils vont savoir que vous êtes chrétiens. Ils vont deviner qu'il y a quelque chose qui ne se trouve pas ailleurs. C'est à la manière que vous aimez les uns pour les uns les autres. Jésus va dire, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, parce que notre manière de s'aimer dans le mariage, dans l'Église, comment on aime les gens au travail, notre manière de faire ça apporte une saveur dans un monde qui cherche dans des relations horizontales ce qu'on doit trouver en Dieu, parce qu'on a connu notre Père céleste. Notre frère Jésus-Christ, on est capable de refléter ça dans nos rapports les uns avec les autres et aimer la femme de notre jeunesse. Écoutez, je ne peux pas faire autrement que de terminer avec Christ, pas parce que c'est une recette, parce que l'apôtre Paul me dit que mon union avec mon épouse, c'est vraiment le reflet de mon union avec Jésus-Christ. Éphésiens 5, versets 22 à 27. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Ça, c'est tout un autre sujet. Hein? Je viens de vous perdre, vous viendrez me voir. Tout un autre sujet. Tellement beau. C'est pas aussi laid que ça peut avoir de l'air dans notre culture, c'est absolument splendide. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Lorsqu'on en vient à connaître Jésus-Christ, je réalise qu'en réalité, mon union avec mon épouse sur la terre est simplement une métaphore, une image qui annonçait un véritable mariage. Un mariage entre Christ et son épouse qui est l'Église. Si vous êtes célibataire et que vous êtes chrétien, vous êtes déjà marié. Et si vous dites, c'est cute Yannick ce que tu me dis, mais il manque un morceau pour mon bonheur. Allez-y, vous allez venir nous revoir dans 5 ans, dans 10 ans pour qu'on fasse du counseling de couple avec vous. Je vous le dis, vous avez des doutes, trouvez-en qui sont mariés. C'est qui est marié depuis plus que 10 ans ici? OK, vous irez voir une de ces mains-là, d'accord? Vous irez leur demander si le bonheur se trouve dans le mariage. Le bonheur se trouve en Dieu. Et nos mariages peuvent être vraiment beaux, vraiment glorieux, dans la mesure où on réalise qu'ils sont appelés simplement à être un reflet de notre mariage avec Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous êtes marié avec un chrétien, ça peut avoir de l'air tellement dur ce que j'ai dit ce matin. J'espère au contraire que ça peut vous aider à comprendre votre conjoint. Comprendre ce cœur qui est un peu partagé à quelque part, puis vous dites, tu n'es pas entièrement là. C'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a un amour qui transcende tous les amours terrestres que cette personne-là a découvert. C'est sûr que cette personne-là voudrait te voir entrer dans l'alliance avec le Créateur. Fais-le pas pour lui. Ce n'est pas une bonne raison. Mais si tu veux faire quelque chose, considère sérieusement l'appel de Jésus-Christ, l'appel de Dieu à entrer dans cette alliance de paix-là. Si tu n'es pas marié, puis tu attends le mariage, puis tu cours après le mariage, de grâce, trouve le bonheur en Dieu, parce que tu ne le trouveras pas dans le mariage, le bonheur. Tu peux trouver de la joie, beaucoup de choses, mais pas le bonheur. Il faut que tu le trouves en Dieu, premièrement. Si tu es marié, puis tu es malheureux, rappelle-toi que Dieu est témoin de ton alliance avec l'homme de ta jeunesse, avec la femme de ta jeunesse. Rappelle-toi que ton bonheur se trouve en Dieu. Tu vas pouvoir trouver la grâce pour faire ta joie de l'homme de ta jeunesse, de la femme de ta jeunesse. Rappelle-toi que Dieu t'aime, n'en doute pas. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on a parlé de choses difficiles. Parce que ça vient nous chercher dans nos tripes, Seigneur. Ça vient nous chercher dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on expérimente. Seigneur, la vérité, Seigneur, c'est qu'on chérit cette possibilité-là de vivre une intimité amoureuse, Seigneur. Et lorsqu'on est dans le mariage, on chérit cette possibilité-là de vivre ça perpétuellement, Seigneur. Et je veux te remercier pour ce rappel tellement précieux, tellement important pour nos mariages. Que toutes nos relations sont là pour refléter notre alliance avec toi, Seigneur. Et que c'est ça qui doit nous inspirer si nous sommes dans une alliance avec une femme, avec un homme. C'est cette alliance avec toi qui doit nous inspirer, Seigneur. Parce que tu es témoin. Viens, Seigneur, exercer ton ministère envers nos cœurs. Viens nous instruire dans la vérité, Seigneur, afin que toutes nos relations reflètent l'amour que tu as pour nous. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.